I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola.
Bog.
Buongiorno.
Et bonjour à tous, c'est Casimir pour L'Europe est une fête. Nous sommes à Grande Contrôle sur Radio Grande Contrôle. Aujourd'hui, je suis avec Carla pour l'Italie. Comment ça va, Carla?
Ouais, ça va.
Ça va, en forme? Pas trop fatiguée? Je suis avec Ale, notre espagnol. Qu'est-ce que tal? C'est qu'est-ce que tal, hein?
C'est bien
en espagnol.
C'est bien ça.
Je me trompe pas, c'est ça. Et Denis. Alors, Denis, je sais pas comment on dit ça va en croate.
Kako si kakoye.
Kakosi kakoya.
Kakosi ou kakoye?
Kakosi kakoya. Je ne vais pas te dire ce que ça veut dire ça en italien.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Kakosi, je te dis juste que caca, c'est caca. Kakosi ouais. Ou kakos. Bon, okay.
Bon, d'accord. Ah. Okay. On voit le champ lexical, ça commence en italien.
Non, mais je me vengerai tout à l'heure.
Alors, le week-end dernier, c'était le week-end de Pâques. Et alors, je suis sûr que vous aimez les chocolats. Moi, je vous ai ramené des petits œufs en chocolat.
Ouais.
Je vais passer, tiens,
tiens avec la bière, ça passe très bien.
Comment on dit chocolat en italien?
C'est des chocolats bretons.
Chocolat, chocolato.
Chocolato.
Chocolate en espagnol.
Et en croate?
Chocolade.
Donc en fait, c'est chocolat à chaque fois.
Ouais.
Prends-en un peu. Mais on ne va pas parler de chocolat en fait pendant cette émission, c'est juste parce qu'on a faim. Aujourd'hui, nous allons parler des lieux insolites en Europe, puisque le thème de l'espace Grande Contrôle cette semaine, c'est les nouveaux explorateurs. Alors, nous sommes une génération qui voyage beaucoup et on découvre beaucoup de lieux insolites aux quatre coins du monde, en Inde, en Grèce, en Colombie, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Argentine ou aux Philippines, etc. etc. En fait, tous les pays que je viens de citer sont des pays que ma petite sœur a déjà visités alors qu'elle a 24 ans seulement.
Waouh.
Et ouais, exactement. Et elle a tellement exploré la planète que récemment, elle nous a avoué qu'elle ne connaissait pas sa France.
Ah.
Elle a plus voyagé à l'étranger qu'en France, finalement. Alors, il y a deux semaines, pour son week-end en amoureux, elle a décidé de visiter Senlis en Picardie. Et ça, c'est insolite, je trouve. C'est presque bizarre. Vous êtes déjà allé à Giverny, en Normandie, découvrir les nymphéas peints par Claude Monet, par exemple?
Oui.
Oui, voilà, c'est à côté. Ah ouais. Non, vous n'êtes pas allé encore,
non.
Denis?
Pas là,
non. C'est magnifique. Hein. Ou alors,
et plein de japonais.
Oui. Est-ce que vous connaissez, par exemple, l'abbaye de Royaumont? C'est un magnifique ancien monastère du Val d'Oise, non?
Si, voilà. Moi j'y connais.
Toi tu connais? T'es allé ou?
Ouais, j'y suis allé.
Voilà, tu vois, vous faites un bon travail de touriste, c'est très bien. Mais surtout.
Dans le sud de la France, j'ai fait un musée, le Soujac.
Soujac.
Aussi la ville de Figeac aussi, où il y a la pierre de Champollion sur les écritures. Enfin, en France, il y a plein d'endroits comme ça, assez pittoresques. Et Rocamadour à voir.
Pittoresque. J'ai appris exactement ce que voulait dire pittoresque assez récemment. C'est quelque chose qu'il se peint, en fait.
Ah,
le mot pittoresque vient du mot peinture. Enfin bref, on ne va pas faire la linguistique. Le lieu le plus insolite de la région parisienne, c'est là où on est. C'est l'espace Grande Contrôle, rappelons-le. Un petit peu de promotion. Donc, tant de lieux insolites qu'on a envie de découvrir en couple, en famille, ou avec ma petite sœur et son copain. Ça peut aussi être une possibilité. Blague à part, est-ce que finalement, les lieux insolites ne sont pas juste à côté de nous? Et alors là, je me tourne vers toi, Denis, parce que tu fais partie d'une association qui s'appelle Bastina, si je ne me trompe pas.
Oui, Bastina Voyage, on organise des
Bastina
balades
Voyage,
urbaines,
ouais.
Souvent accompagnées de migrants dans des quartiers comme Châteaurouge.
Mm-hmm.
Alors on peut découvrir le wax, la culture africaine, on peut découvrir le bachelor, c'est un sapeur congolais. Donc, il vous le dit, par exemple, qu'en France, c'est la sape corbillard. Les gens s'habillent pour aller à l'enterrement tous les jours et lui, il est plein de couleurs.
Alors, le principe des balades, en fait, c'est de se balader dans Paris.
Dans Paris, à la rencontre de commerçants ou de certaines personnes, d'artisans dans les différents quartiers. Découvrir aussi certains endroits, comme par exemple Notre-Dame de Chine, qui est une église. À l'intérieur, on a la Vierge Marie et Jésus, mais asiatique.
Ah, génial.
C'est très joli, c'est assez insolite,
donc,
d'ailleurs.
C'est... une asso qui permet de découvrir des lieux insolites. Ouais. Et tu me parlais souvent d'une balade italienne.
Oui, on a une balade italienne à la Courneuve. Mmh. C'est-à-dire que quand on se balade là-bas, l'architecture, la disposition des terrasses, pergolas, terrasses et mosaïques, il y a une influence italienne. Sans qu'on s'en rende compte, c'est-à-dire que les gens passent à côté mais ne se rendent pas compte que tiens, cette place-là, elle ressemble à tel endroit à Rome ou tel endroit ailleurs, c'est typiquement italien parce que ce sont des ouvriers maçons italiens qui ont travaillé là. Donc l'Italie, là aussi à côté de nous, alors c'est bien, c'est bien d'aller la voir, mais il y a aussi une part d'Italie à la Courneuve.
Je vais
si
venir vérifier
voyager.
Tout ça. Hein.
Pas de problème. Donc c'est Bastina, B-A. S-T-I-N-A.
Tout à fait.
Tout simplement, si vous voulez chercher sur Internet et participer à ces balades. On va partir avec Carla, pas dans l'Italie de la Courneuve, mais dans l'Italie de Carla, découvrir les lieux insolites de la botte de l'Europe.
Lieu insolite italien. Alors là, on est tous d'accord, c'est parti pour la chronique Ruta. Hein. Alors, donc là, je vais vous faire toute la liste des endroits magnifiques. On est en Italie, dans l'île de Pantelleria, à côté de la maison de Giorgio Armani. Vous pouvez vous baigner dans la mer, juste à côté. Vous avez un petit bassin d'eau salée à 30 degrés. Hein. Elle surgit directement de la terre. À Ischia, il y a directement un centre thermal fait avec l'eau salée, géré clairement pas par des Italiens, mais par des Allemands. À Rome, il y a une rue que vous pouvez parcourir en voiture où vous voyez le dôme de San Pietro s'éloigner et devenir de plus en plus grand, le plus vous vous éloignez. Hein, illusion optique.
Ah oui ?
Ah voilà, tu t'éloignes avec la voiture et le dôme devient de plus en plus grand, voilà, parce qu'il y a une illusion optique qui se passe. À Montalcino, vous pouvez vous balader dans un vignoble où les raisins poussent avec la musique de Mozart. Projet commencé par un avocat visionnaire. Là, Boz le suit et il brevette dans son champ la première enceinte étanche pour l'agriculture. À Ariccia, aux portes de Rome, vous pouvez manger la porchetta et faire un repas à prix populaire en regardant un dôme de Michel-Ange. À Roma, à l'Obitorio, une pizza margherita coûte encore moins de 10 euros. C'est insolite. À Bagnovignoni, en Toscane, il y a des thermes naturels qui jaillissent de la roche et vous pouvez vous baigner dans la nature et dans l'eau chaude gratuitement dans un paysage qui rappelle les peintures de Leonardo da Vinci.
Carrément.
On peut avoir des plages noires à Stromboli parce que le vent amène la poussière du volcan et tu peux carrément te retrouver ta salade assaisonnée par le vent. T'as mis du poivre ? Ben non, c'est la cendre du volcan. À Ginostra, de l'autre côté de l'île de Stromboli, tu te prépares ton café et tu entends le volcan faire sa petite éruption tous les 20 minutes. C'est insolite quand même, ça aussi. Tu m'étonnes qu'ils étaient convaincus qu'il y avait une divinité là-dedans. Les habitants de l'île appellent le volcan Iddu, ça veut dire « lui ». À Cala Liberotto, en Sardaigne, des lys poussent dans le sable sous le soleil. Attention, c'est la plage où j'allais quand j'étais petite. Donc, petite parenthèse personnelle. Gamine, j'ai pensé longtemps que c'était normal que dans toutes les plages du monde, il y avait des lys qui poussaient. Et que les soirs se fermaient comme des petites boîtes à trésors. Par la suite, j'ai découvert que c'est pas vrai et que malheureusement, les plages sont souvent surtout recouvertes d'ordures. Notamment la plage d'Olivella, 2500 ordures en 100 mètres de plage.
Ça,
ordures de tous les types et entre autres des petites bouteilles de désherbant signées Monsanto. Insolite, oui, surtout flippant. Ensuite, il y a des autres lieux insolites en Italie où il se passe vraiment un truc bizarre. À Cosenza, à Catania, à Messine, à Palermo, etc., etc. Les commerçants proposent pouvoir exercer leur activité, doivent payer il pizzo.
Il pizzo, c'est un impôt d'État, ça.
Mais non, c'est ça le truc insolite, c'est qu'ici, l'État ne compte rien. Personne ne fait confiance à la préfecture et tu dois payer il pizzo pour pouvoir ouvrir ton café. Si tu le payes, si tu le payes pas, tu ne reçois pas une amende. Non, ton café est brûlé, mais pas le café que tu bois. Hein, le café entier. Petit incendie de règlement de compte. C'est un système efficace, tu payes et tout le monde est content. Sinon, il y a aussi la décharge de Pianura ou la Camorra, apparemment. Tu sais, en Italie, sur ce qu'il fait la mafia, la Camorra, on n'est jamais sûr. Donc, apparemment, a réversé des boues venimeuses produites par une usine de colorants dans le nord de l'Italie. Autre lieu insolite, d'ailleurs, non, la vallée du fleuve Bormida, où il y avait l'usine des Lacna. Là-bas, d'abord, on fabriquait des explosifs, ensuite des peintures. Quand ils ont ouvert le site en 1999, les scientifiques ont retrouvé des 180 types de compositions chimiques, presque toutes venimeuses, dérivant du soufre, l'ammoniac, du cyanure, etc., etc. Et ben voilà, tout ça, aujourd'hui, se trouve dans les terres de Pianura, cette décharge que se trouve à 50 km à vol d'oiseau du une réserve naturelle du VVF.
Voilà.
Insolite. Hein. et je vais quand même terminer avec une petite touche d'espoir. La forêt de chênes de Seveso. Mm-hmm. Alors ça, c'est une forêt qui a été plantée à la suite du premier grand désastre industriel en Italie dans les années 70. Mmh. Le réacteur d'une usine qui produisait du trichlorophénol, ça fait peur juste de le dire, a explosé et un nuage toxique de dioxine a envahi le secteur. Alors, désastre, mort, malformation, je vous passe les détails. Mmh. Pour revaloriser l'endroit, après 10 ans, les associations ont décidé de planter des chênes. Évidemment, une fois avoir enlevé tout le terreau pollué. Hein. Mmh. Et tu me diras, ils l'ont mis où, tout ce terreau pollué?
Bah oui.
Eh bien, ils l'ont mis au milieu de la forêt. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la vasca, ça veut dire le bassin. C'est une jolie petite butte qui contient, protégée par 4 barrières hautement scellées, 200 000 mètres cubes de matériaux toxiques, les 80 000 animaux morts, les objets contaminés que l'habitant n'a pas pu récupérer. Insolite.
Donc c'est une colline toxique, ça.
Oui,
carrément.
Mais elle est toute, comment dire, scellée. Et voilà,
isolée, quoi. Ouais.
Parce qu'ils ne savaient pas où le mettre, la décharge.
Et autour, il y a une forêt replantée.
Une forêt de chênes. J'ai vu les photos. Voilà, quand j'ai...
C'est, comment ça s'appelle? On regarde sur Internet.
Seveso.
Non, Seveso. Mais on la voit, cette forêt, dans un film, dans Le Seigneur des Anneaux 2, quand ils se mettent en marche.
Non, mais elle est magnifique. Pour être, ouais, quand tu vas marcher.
La référence culturelle. Merci. Tu as une musique pour accompagner cette magnifique colline de produits toxiques?
Oui, oui, j'ai une musique de 99 Poste qui s'appelle Sfumature, c'est-à-dire Nuance.
Nuance, on écoute tout de suite.
I giorni scorrono veloci, più di quanto potessi desiderare. Le notti sono assai più brevi di quanto potessi temere. Mi mancano già questi luoghi, mi mancano già i vostri nomi. L'essenziale è invisibile agli occhi. Il cuore invece no, non può ingannarti. No, 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 no. I pensieri scorrono più veloci della luce. I miei occhi parlano con un'altra voce. I pensieri corrono più veloci della luce, gli occhi impercettibili sfumature, così difficili da dimenticare, così decise da trasformare. Siamo noi coi nostri mondi in testa, tutti ostili e pericolosamente confinanti. Siamo noi un po' paladini della giustizia, un po' pure briganti. Siamo noi spaccati e disuguali. Siamo noi frammenti di colore, sfumature dentro un quadro da finire. Siamo noi che non ci vogliono lasciar stare. Siamo noi che non vogliamo lasciarli stare. Siamo noi appena visibili sfumature, in grado di cambiare il mondo, in grado di far incontrare il cielo e il mare. Nel tramonto siamo noi frammenti di un insieme ancora tutto da stabilire, che dipende da noi capire l'importanza di ogni singolo colore. Dipende da noi saperlo collocare bene, ancora da noi capire il senso nuovo che può dare all'insieme che dobbiamo immaginare. Solo noi, solo noi, solo noi. Trasformare sorrisi in lacrime, impercettibili sfumature, così decise da trasformare.
à chaque fois, Carla chante la chanson en même temps et elle nous en fait profiter. Alors, si vous voulez reprendre les chroniques de Carla, il n'y a pas de problème. Vous pouvez réécouter en podcast au ralenti, même. Parce qu'on se disait pendant la pause musicale qu'il y avait beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on en a retenu? Moi, c'était la plage de ton enfance avec Lélis et qui te paraissait. Tu pensais que c'était toutes les plages étaient comme ça et en fait, non. Tu as appris au fur et à mesure de ta vie qu'il y avait d'autres plages. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, Denis? Qu'est-ce qui vous a interpellé?
Au début, c'était tellement beau ce qu'elle disait. Je me suis dit, je vais changer ma chronique parce que là, il faut que je tape fort pour que les gens viennent en vacances en Croatie et pas en Italie. Mais comme à la fin, elle a commencé à expliquer les déchets, les animaux morts, les machins, je me suis dit, non, c'est bon. Je reste sur ce que j'avais à dire, tranquille.
Et puis la mafia, qui est toujours là, mafia. Tu parlais beaucoup d'Italie du Sud encore.
Oui, ouais. J'avais une petite passage en Toscane.
Un petit peu, mais beaucoup à part Rome et ouais. Beaucoup. Tu es romaine, toi, c'est
oui,
ça?
Oui, mais moi je suis romaine et après je suis allée souvent au Sud. J'ai une grande passion pour le Sud, l'Italie. Mais bon, voilà, j'aime bien le Nord aussi. Mais on y va moins souvent. Moi j'y vais moins souvent.
Très bien. Allez, on va t'écouter sur les lieux insolites espagnols.
Ça marche.
Allez, on y va.
Alors, des lieux insolites en Espagne, comme dans plein des pays, ils doivent en avoir beaucoup. Et en fait, dans ma recherche, j'ai trouvé autant d'endroits magnifiques comme des endroits curieux. Et surtout, tout ça m'a donné envie d'en visiter quelques-uns et de partir en vacances.
Mais... En Espagne?
Non, un peu partout, mais en Espagne aussi. Et c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, moi, je pense que je ne connais pas très bien l'Espagne.
Ah oui?
J'ai plus voyagé en Europe que dans mon pays. Je connais beaucoup les normes, mais je ne connais pas tous les...
Mais ça, c'est un truc de notre génération,
c'est
en fait.
C'est ça. Oui, c'est vrai. Je me suis dit qu'il faut que j'ai visité un peu plus, justement, mon pays.
Parce qu'il y a plein de choses à voir. Parce que nous, l'Espagne, c'est les vacances. Donc, moi, en français, c'est oui, on va partir en Espagne en vacances. Mais toi, peut-être que tu dis non, on va partir à l'étranger en vacances.
Ouais, c'est ça, mais c'est ça.
C'est absurde, totalement absurde. Je laisse continuer, excuse-moi.
Et du coup, en fait, j'ai choisi deux endroits duquel je vais vous parler aujourd'hui. Les premières, c'est plutôt un bâtiment, en fait, et il est assez curieux. Il s'appelle la cathédrale de Justo. Et il s'agit d'une cathédrale de très grandes dimensions qui est située à Mejorada del Campo, c'est pas loin de Madrid. Et en fait, ce bâtiment, il est toujours en travaux aujourd'hui. Et il est construit et pensé par Justo Gallego Martínez, qui est un agriculteur qui n'a pas fait d'études. Alors, pourquoi il va décider d'en prendre une tâche si compliquée? En fait, en 1961, Justo s'est fait virer d'un monastère cistercien qui s'appelle Santa Maria de Huerta, parce qu'il était malade de tuberculose. Et un peu de temps après... Il va guérir et lui, il va décider de remercier Dieu et la Vierge en construisant une cathédrale. Et du coup, petit à petit, il va avancer dans cette tâche monumentale. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, il avait aucune formation en construction, pas d'ouvrier avec lui, pas des plans, pas d'architecte. Et en fait, tout, dit-il, est dans sa tête.
Il n'avait pas de plan, il a juste, c'est lui, juste sens, il a posé une première pierre.
Il s'est lancé un jour, il a commencé, il a continué. Maintenant, il a 92 ans, je pense, et il continue comme il peut, je pense.
pierre par pierre.
Ouais. Et du coup, en fait, depuis plus de 50 ans, il a érigé un géant qui fait quand même 5000 mètres carrés, avec deux nefs, une coupole de 40 mètres d'hauteur, deux tours et une crypte. Et tout ça avec des briques irrégulières, avec des pneus, des canettes.
Ah, il recycle ?
Ouais, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans vraiment. On sait qu'il y a des canettes, des bouteilles et surtout beaucoup de ciment pour coller tout ça. Et en fait, comment la cathédrale elle tient, c'est un vrai mystère.
C'est fou ça. Et c'est au fur et à mesure qu'il a posé les pierres comme une...
J'ai vu plusieurs fois des reportages dessus, c'est assez incroyable.
Ouais, c'est assez particulier. Et en fait, en 2005, il y a la boisson Aquarius qui apparaît en France d'ailleurs, c'est un truc des Coca-Cola, qui a fait une pub et avec son histoire justement. Et du coup, ça a eu vachement des répercussions à l'international. Et il a même eu une expo des photos dédiées au musée d'art moderne de New York.
Et... La classe.
Ouais. Et c'est assez dingue. Et en fait, ce bâtiment, il n'est pas du tout reconnu par l'Église catholique comme une cathédrale. Mais bon, Justo, les habitants de Mejorada et la plupart des Espagnols les connaissent toujours comme la cathédrale de Justo.
La cathédrale de Justo, donc on peut regarder ici sur Internet. Moi, ça me rappelle un peu la Sagrada Familia, dans un autre registre où elle est toujours en construction depuis des... C'est pas le même registre.
Ouais,
hein,
non.
Non. Mais c'est parce que c'est le principe de reconstruire une cathédrale au fur et à mesure de notre temps.
Ouais, ça, et qui n'est, qui n'est oui. tout à fait fini, en fait.
Voilà, c'était juste une pensée. T'avais un deuxième lieu à nous.
C'est ça. Alors.
Oui, Carla, oui.
Non, j'ai rien dit.
Non, tu te moques.
Je cherche la photo de la cathédrale.
Ouais, après.
Et le deuxième lieu, alors, c'est où, c'est quoi?
Le deuxième lieu, il a été aussi créé par l'homme, même si quand on les voit aujourd'hui, on a l'impression que c'est un paysage naturel et ça s'appelle Las Médulas et c'est dans une région qui s'appelle El Bierzo, c'est Castilla et León, je ne sais pas si vous voyez. En fait,
c'est dans le centre ça, non?
Ouais, centre un peu à l'ouest, c'est entre la Galice justement et Madrid, il y a une grange.
Oui, donc entre l'ouest et Madrid.
Et le centre,
ouais. Madrid, ouais, c'est au centre du pays. C'est la région la plus grande, non? C'est pas ça?
Je ne sais pas si c'est l'Andalousie, c'est entre les deux, elles sont très proches en superficie, je pense.
Tout ça, c'est une question de géographie.
Et en fait, Las Médulas, c'est un aménagement paysager qui était à l'origine une mine d'or créée par les Romains. D'ailleurs, elle est considérée comme la plus grande mine d'or à ciel ouvert de l'Empire romain. Et en fait, il s'agissait d'une offre d'ingénierie qui permettait l'extraction de ces minérales et avec un système qui s'appelait Ruina Montium. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Et en fait, il se servait de l'eau des pluies et du dégel pour faire tomber les montagnes et rendre plus facile l'extraction du métal précieux. Et du coup, bon, pour vous donner des chiffres aussi, parce que c'était assez impressionnant, la quantité d'or qui pouvait être extrait à l'époque et qui vaudrait aujourd'hui à 5 000 millions d'euros de nos jours. Mmh. Donc c'était quand même...
Et quand même, hein.
Un peu des points.
C'est de l'oseille, hein.
C'est ça.
C'est un peu de l'oseille, hein.
Et en fait, bah, les Romains, avec cette action dans ces lieux qui à l'origine étaient vierges, a eu comme conséquence la transformation de l'environnement naturel et ça donnait un paysage plein de monticules et de montagnes, des sables rouges, parce qu'en fait, c'est les sables qui étaient sous terre à la base, qui est typique de cette zone, et sur lesquels, en fait, il y a plein de végétations et d'arbres qui ont poussé les longs des années. Et du coup, c'est vraiment un paysage magnifique et aussi avec plein d'histoires.
Bien, passionnant. Alors, tu as une musique pour nous faire...
Ouais, j'ai une musique qui parle de l'or, ouais. Parce que vu qu'on finit avec ça, c'est une chanson qui s'appelle Purísima y Oro de Joaquín Sabina, qui est un de mes chanteurs préférés.
Purísima, ah, c'est un de tes chanteurs préférés, Joaquín Sabina.
Ouais, c'est.
Tu as des posters?
c'est pas ce genre, ça, je pense. Il a 70 ans, je pense.
Tu peux avoir des posters. Hein.
Oui.
Et Purísima y Oro, ça veut dire quoi?
Il y a beaucoup de gens qui ont des posters. Purísima, c'est vraiment très, très pur, en fait.
D'accord,
c'est...
ok.
Très, très pur et or.
D'accord. Bon, on écoute tout de suite. Très, très pur et or.
Academia de corte y confección. Sabañones. Aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolino, el género dentro por la calor, para primores, galerías piquer, para la inclusa, niños con anginas, para la tisis, caldo de gallina. Para las extranjeras, Luis Miguel. Para el socio del limpia, un carajillo. Para el extraperlista, dos barreras. Para el corpus, retales amarillos. Que aclaren el morado de las banderas. Tercer año triunfa con... brillantina. Los señoritos cierran al azar y en un barquito Miguel de Molina se embarca caminito de ultramar. Había pasado ya los nacionales habían rapado a la seña Cibeles. Cautivo y desarmado, el pao de los cristales, a la hora de la zambra en los gravieles. Por ventas madrugaba el pelotón. Al día siguiente hablaban los papeles de Celia, de Pema y del Bayón.
Oui, Carla.
Et alors, en fait, vous savez, donc, il y a eu toute cette polémique sur le fait qu'il y a 1 milliard pour Notre-Dame,
Notre-Dame,
il n'y a rien pour les misérables. Mm-hmm. Alors, moi, j'ai une idée. On engage là le mec Rousteau pour reconstruire Notre-Dame. Mm-hmm. Comme ça, le milliard, on le fait péter pour les misérables. Et en plus, en passant, il pourrait récupérer tous les matériaux toxiques de la décharge en Italie pour reconstruire Notre-Dame avec tout ça.
Moi, ce que je trouve qu'il y a de bien, c'est que ça rappelle justement ce gigantisme de faire des cathédrales. Parce qu'actuellement, on fait tout avec des choses modernes. On fait ça en 5 ans. D'ailleurs, là, ils disent qu'ils vont faire en 5 ans. Alors que là, on se rend compte que c'est un homme et tout le poids que ça a. Par contre, sur l'aide de 1 milliard, tous les ans, l'aide mondiale pour les pauvres, etc., est chiffrée à environ 140 milliards. Alors, je ne pense pas que c'est l'aide de Notre-Dame qui manque. Je pense qu'il y a beaucoup de corruption et que l'argent est très mal utilisé. Et ça, c'est un autre débat.
Mais si oui, c'est un autre débat parce qu'il y a en effet un bouquin de Tolstoï que j'invite tout le monde à lire qui s'appelle Quoi faire et qu'il demande, qu'il parle longuement de ça. Voilà, on va faire une émission sur ça.
Qui parle
de
Tolstoï
Comment aider les pauvres ?
Comment aider les pauvres ?
Oui, parce qu'il se pose la question à un moment donné, Tolstoï, parce qu'il est très très riche, il a gagné énormément d'argent, mais qu'il se pose la question.
C'est quoi la réponse, la conclusion ? J'ai lu la dernière page, c'est quoi la
quoi
dernière
faire ?
Page ?
Non.
La conclusion, c'est qu'on doit tous abandonner les villes, en fait, si tu veux. La conclusion, c'est ça. Mais bon, c'est un raccourci, quoi.
Ouais. Moi, je veux bien vivre avec les vaches.
Mais c'est Tolstoï qui l'a dit, tu imagines, tu vois.
Oh là là.
Il était visionnaire.
Si c'est Tolstoï, franchement. Ouais. Et on va vivre dans la cathédrale de Justo, c'est ça ? On peut essayer. D'autres commentaires par rapport à tout ça là ? Moi, ça m'a. Tu vois, est-ce que le lien que tu fais avec le gigantisme et la difficulté de construire une cathédrale, c'est ce lien qu'en fait que je faisais avec la Sagrada Familia.
Ouais.
Voilà, je voulais revenir.
Ouais,
mec, c'est justifié à fond, tu vois.
Non, je voulais juste poser une question. Allez, on parlait d'insolite. Est-ce que tu connais le langage qu'il y a aux Canaries sur l'île de Gomera, je crois ?
Ah ouais, il siffle.
Oui,
c'est ça.
C'est le silbo.
Ouais.
C'est un langage sifflé parce que comme les pasteurs étaient très loin avec leurs bêtes les uns des autres quand ils gardaient les vaches, les moutons, etc. Et bah pour s'entendre, ils sifflaient. Et c'est un véritable langage où ils disent à 5 heures je rentre.
Ouais, ils se parlent.
Ils se parlent en sifflant.
En sifflant.
Oui.
C'est où
dingue.
Ça
Canaries.
Aux Canaries.
Ouais. Ouais.
Eh bien, ça, c'est insolite.
Il y a quelques vidéos sur YouTube à voir, c'est assez impressionnant.
On
le réapprend dans les écoles. Silbo, langage sifflé.
Ah, je ne savais pas qu'on apprenait.
Oui.
On continue à l'apprendre.
Ouais.
Silbo, je vais regarder ça.
Bah, c'est patrimoine, je pense que c'est un patrimoine. Il ne faut pas que ça se perde.
Et en Croatie, comment ça se passe, les lieux insolites ?
Ça se passe très bien.
Eh bien, écoute, on va t'écouter tout de suite, Denis, pour nous parler des lieux insolites en Croatie.
Bonjour. Alors,
bonjour. Bonjour Denis, enchanté. Alors Denis, c'est assez
insolite que je sois là aujourd'hui parce que je ne devais pas être là, mais j'ai eu un changement de planning et quand tu m'as dit que tu serais seul avec deux femmes, je me suis dit
donc pas tout à fait seul finalement.
Voilà. Il faut que je vienne et moi je vais parler d'un musée très insolite qui s'appelle le musée des cœurs brisés. Alors, en croate, c'est le musée des relations arrêtées, et en anglais, broken relationship, mais je trouve que c'est en français que la traduction est meilleure, musée des cœurs brisés. C'est un couple qui s'appelle Olinka Vištica, alors Vištica, ça veut dire sorcière, comme nom de famille, bon, et Dražen Grubišić, qui ont vécu ensemble de 1999 à 2003. Et quand ils se sont séparés, ils avaient beaucoup d'objets, et ils se sont demandé ce qu'ils allaient en faire, d'objets qu'ils avaient accumulés en commun, et l'un des deux a dit « on n'a qu'à en faire un musée », comme une blague. Et ils en ont fait un musée, d'abord itinérant. Aujourd'hui, c'est un musée qui est un lieu fixe dans un ancien immeuble baroque à Zagreb. Il y a environ 2500 objets. Les collections sont renouvelées tous les 3 ans et ils ont fait le tour du monde. Alors, les gens laissent des objets de leurs anciennes relations. Alors, par exemple, c'est magnifique.
J'ai chialé.
Alors, il y a des gens qui pleurent. Moi, je l'ai visité. J'ai vu des gens pleurer.
Oh, Carla.
Alors, Carla, par exemple, pleurer,
hein. On est en train de la perdre.
Par exemple, il y a un MP3. Et c'est un garçon d'Inde qui l'a laissé. Et il dit, avec ce MP3, j'écoutais la musique avec ma copine. Un jour, elle est partie en vacances et elle est revenue en me disant que nous n'étions pas de la même caste et que sa famille refusait notre mariage. Et il a fait don de ce MP3 sur lequel ils écoutaient leur musique.
Ah oui.
Il y a une paire de chaussures rouges. C'est une femme qui dit, l'homme qui me les a offerts a laissé sa femme, a laissé ses enfants pour vivre avec moi. On a eu 2 ans de relation et un jour, il m'a offert ses chaussures rouges à Pigalle. Et j'ai décidé de le quitter. Alors, pourquoi je dis qu'en français, la traduction est la meilleure, cœur brisé ? Parce qu'après, il y a des gens qui ont laissé des choses qui ne sont pas uniquement sur des relations de couple, mais aussi, par exemple, à des parents qui sont décédés. Et c'est là où je dis, où j'ai vu des gens pleurer, parce qu'il y a parfois des objets qui appartenaient à un parent que les gens ont laissé en une sorte de catharsis pour oublier, pour se débarrasser d'une histoire en disant, voilà, cet objet appartenait à ma mère, on tricotait avec et je le laisse au musée avec une histoire et c'est très beau. Le musée accueille environ 500 personnes par jour et il y a des gens qui ressortent qui sont pas contents.
C'est à Zagreb,
il a fait le tour du monde, il était à Paris aussi. Il y a des gens qui ressortent, ils sont pas contents parce que ce qu'ils ont lu, ça leur plaît pas. Il y en a d'autres, ils ressortent, ils sourient. Il y en a qui pleurent. Parce qu'avec chaque objet, il y a l'histoire qui l'accompagne. Oui. Alors moi, je sais pas si vous avez des objets emblématiques comme ça. Enfin, je vais pas vous le demander parce que si vous êtes
est-ce que vous avez des objets emblématiques comme ça. Moi, je suis pas du tout matérialiste.
D'une ancienne relation ou quelque chose.
Moi, j'ai une anecdote à raconter sur ça, mais je la raconte après.
Après la musique, tu raconteras après la musique. Très bien.
Je sais pas, ou alors peut-être un bulletin de vote Maduro ou des choses comme ça.
Tu dis ça pour ma fille qui est derrière.
Ça y est, le lien est rompu. J'ai cru en toi, je le donne au musée.
et t'avais un autre lieu, non ?
Oui, alors le musée a reçu le prix Kenneth Hudson de l'Union Européenne en 2011. Alors j'ai un autre lieu maintenant qui est un lieu plus géographique, qui est le lac bleu à Imotski.
Ah d'accord, un espace naturel.
Ouais, oui, c'est un lac bleu mais qui n'est pas bleu comme la mer. On a l'impression plutôt que c'est peint. Il peut atteindre 90 à 110 mètres. Et en été, il peut totalement s'assécher. Il y a des gens qui jouent au foot à ce moment-là en bas.
Dans le lac
dans le lac asséché. Quand François Joseph, l'archiduc, au début du siècle, est venu le visiter, on a même fait une route pour qu'il puisse venir jusqu'au lac. Alors, des lacs bleus, il y en a dans d'autres parties du monde. Hein, c'est dû au karst, etc. Comme tout à l'heure, elle parlait du fond, du calcaire, des vestiges romains. Mais la particularité, c'est qu'à 1 km de là, à côté du lac bleu, il y a le lac rouge. Oui. Et là,
la chronique insolite. Allez.
Et là aussi, c'est dû au sol karstique calcaire qui donne cette couleur au lac qui est rouge. Et on trouve dedans aussi un poisson qui est uniquement là, qui est le Delminicus adspurus. Alors au début, j'ai cru que c'était un sort comme dans Harry Potter, mais non, c'est le nom d'un poisson. Et on le retrouve aussi dans les rivières environnantes. Ça veut dire qu'il y a un lien souterrain entre le lac et les rivières à côté.
Et il est de quelle couleur ce poisson ?
Normal.
Normal. Couleur normale, c'est-à-dire c'est...
Voilà. Alors,
couleur poisson.
Tout à l'heure, aller parler de ces montagnes que les Romains détruisaient et qui ensuite, maintenant, ont fait quelque chose de naturel.
En Espagne,
Et là, en fait, il s'est passé à peu près la même chose, sauf que c'est dû à un tremblement de terre. Donc, il y a eu un affaissement. La terre est rentrée plus profondément et donc, ça a permis la création du lac. Donc là, par contre, c'est naturel, mais tant que ça ne s'était pas affaissé du tremblement de terre, l'eau n'était pas à ce niveau-là.
Et c'est devenu un lieu mythique ou...
Non, les gens mystique. Y viennent, les gens viennent visiter. En fait, on peut venir faire des photos, et ensuite, quand on se sépare, on les donne au musée.
Encore, de la croix-site du tourisme.
On les donne au musée des cœurs brisés. Alors, ça, c'est dans la région d'Imotski. Et la région d'Imotski, elle a une autre particularité. Les habitants d'Imotski, on les appelle Imotian. Mais... En croate, Imoutian, donc il y a juste une lettre qui change, c'est celui qui est riche aussi. Et Imotski a la particularité d'avoir la plus grande concentration de Mercedes par habitant.
Mais n'importe quoi. On était parti sur le musée des cœurs brisés quand même. Oui. On est sur les Mercedes.
Tu rigoles, mais Donc, ils ont le lac rouge, oui. Le lac bleu, la plus grande concentration de Mercedes. C'est-à-dire que toi, si tu vas là-bas, si tu viens avec ta voiture, on saura tout de suite que tu n'es pas du coin. Et d'ailleurs, Mercedes le sait tellement que les cadres de Mercedes se rendent à Imotski pour visiter l'école technique et pensent installer une usine là-bas. Mm-hmm. Et on va sortir un bloc de 32 tonnes de marbre de l'île de Brac, la même île, le même marbre qu'on mm-hmm. a servi pour faire la Maison Blanche aux États-Unis, mm-hmm. pour faire une réplique de Mercedes avec ce marbre de 32 tonnes. Alors, pourquoi ? Parce que quand les Croates partaient travailler à l'étranger, à la fin de leur vie, à la fin de leur retraite, il fallait mieux venir avec une Mercedes qu'avec une Fiat. Ça voulait dire qu'on avait réussi. Non, mais...
Alors... Mais arrête de me regarder comme ça.
Non, mais Denis...
Moi, j'ai même pas de voiture.
On est passé d'un lac rouge à un lac bleu au Mercedes en marbre.
Oui.
Et la musique, c'est un rapport avec tout ça ou pas ?
Alors, la musique, ce sont deux violoncellistes croates.
Uh-huh. Et, s'appelle comment ?
Stjepan Hauser et l'autre, c'est Lukas Tulić, mm-hmm. si je me rappelle bien.
Bon, là, tu pouvais dire n'importe
et
quoi.
Et qui reprennent, des morceaux pop, rock, connus, mm-hmm. uniquement avec le violoncelle. Alors, ils ont fait Human Nature de Michael Jackson, que je trouve magnifique, mais qui est un peu lent, donc c'est pour cette raison-là que je ne l'ai pas proposé. Ils ont fait Avicii aussi, qui est magnifique. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on va écouter Despacito.
Allez, Despacito, violoncelle, tout de suite. On est en direct. Ouais. Bonjour, Casimir. J'ai pas vu qu'on était là déjà. C'était très intéressant tout ça. C'était très varié, Denis.
Ouais.
Des réactions à aller par rapport à ce qui se passe en Espagne. Ça ouais. t'a rappelé quelque chose, l'histoire
c'est
des Mercedes ?
C'est ça. Bah, l'histoire des Mercedes, ça me fait penser à un village qu'il y a dans ma région qui s'appelle Avion. Et en fait, il y a une famille qui a fait plein de thunes quand ils sont émigrés en Amérique du Sud. Ils sont rentrés et toutes les gens de ces villages, je ne sais pas, ils sont revenus avec plein d'argent. Et du coup, il y a plein des voitures sportives, tu m'as dit.
Oui, voitures sportives. Oui,
c'est ça. Et on dit que dans plein de maisons, bah, les robinets, ils sont en or.
En or.
C'est ça.
Avoir un robinet en or. Quelle est l'utilité d'un robinet en or ?
Je sais pas.
juste dire aux gens, tu veux prendre un bain chez moi?
Je sais pas, peut-être le calcaire, ça colle moins, je sais pas.
Il n'y a pas des calcaires, hein, Galice, en plus.
S'il n'y a pas cette utilité-là, je vois vraiment pas d'utilité. Ouais. Quoi.
Tu peux déjeuner dans ta salle de bain, en regardant les...
J'ai un gros problème avec les calcaires de Paris, moi. Bon.
Et on voulait revenir aussi sur les musées des cœurs brisés. Carla, tu avais une anecdote.
Ouais, en fait, tout de suite, ça m'a fait penser en fait à cette histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Marina Abramović, qui en fait avec son compagnon, ils sont restés un couple pendant longtemps. Machin, ils ont fait pas mal de performances ensemble et tout. À un moment donné, ils ont décidé de se quitter. Et en fait, vu que de toute leur vie, ils faisaient tout le temps une performance, en fait, ils ont pris tous les objets de leur histoire d'amour. Mm-hmm. Ils sont allés l'un à un bout, l'autre à un bout de la muraille de Chine, et en fait, ils laissaient derrière eux les objets de la relation. Et à la fin, ils se sont rencontrés à moitié. Ils sont promenés pendant 2500 kilomètres. Et à la fin, quand ils se sont rencontrés, ils se sont enlacés, ils se sont dit adieu. Donc d'abord, j'ai pensé à ça. Et après, sur les objets, toi, je ne sais pas, c'est quelque chose qui... Moi, ça m'a toujours travaillé sur les histoires du passé et tout. Et à un moment donné, quand je m'étais quittée avec un... avec la première impression avec laquelle j'avais partagé une maison, donc on avait plein d'objets, parce que c'est là que tu commences à avoir les objets quand tu vis ensemble. Et du coup, j'ai fait un espèce de rituel de Jodorowsky, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il conseillait de prendre ses objets, de les enterrer. C'était une petite cuillère, un livre. J'ai choisi ces deux objets-là.
C'est le film Cimetière, ça.
Les enterrer et de mettre du sucre et du miel par-dessus et de mettre de la terre et de planter une plante par-dessus. Et en fait, je vais te dire que, bon, je vais pas rentrer dans tous les détails de ma vie privée, mais en fait, le fait de faire ce rituel-là, effectivement, ça a apporté qu'il y ait la fin de cette relation. Après, ça a apporté des choses très positives derrière. Mmh. Donc, je me dis, tu vois, qu'en tout cas, les objets d'une relation, ils sont chargés de...
C'était les racines d'une autre vie, d'une vie suivante.
C'est ça.
Très belle histoire.
Ouais.
On va faire un jeu pour terminer notre émission, parce que là, on a 4 minutes, 3 minutes devant nous. Alors, le jeu, ça va être assez simple. Le jeu, c'est le jeu des lieux insolites en Europe. Donc, je vais vous donner des lieux insolites et vous devez deviner les pays. Dans quel pays est situé le restaurant le plus petit d'Europe et du monde, d'ailleurs ?
En France ?
Non, ce n'est pas en France. C'est un pays de gastronomie, mais ce n'est pas la France.
L'Italie ?
C'est autant en Italie. Alors, c'est dans la région Lazio, à 70 km de Rome.
Lazio.
Comment tu dis ? Lazio ?
Lazio. Lazio.
Oh, pardon. Ouais. Alors, le restaurant s'appelle le Solo per Due. Je me suis bien débrouillé. C'est à Vacone. Oh, je me suis dit, je parle italien. Ouais. Et alors, comme son nom l'indique, c'est un restaurant qui n'accueille que 2 personnes à la fois. En fait, c'est une bâtisse du 19e siècle avec une décoration chaleureuse, etc., typique, et un dîner aux chandelles romantique.
Il y a plus de décoration que de place, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et ça coûte cher, du coup.
Alors, je n'ai pas les prix, je ne gère pas la réservation, mais en tout cas, c'est un lieu insolite. Ouais. Dans quel pays est situé le stade de foot le plus haut d'Europe ? Le plus haut,
en altitude. Lima.
En altitude.
Lima au Pérou.
Lima au Pérou.
En Europe.
Bravo, Denis.
Il suit pas.
Il n'a pas compris le concept de l'émission, Denis. C'est pas possible. Dans quel pays est situé le stade de foot le plus haut d'Europe?
Alors, c'est pas le plat pays. C'est pas le
c'est un pays avec un petit peu d'Alpes. Voilà.
La Suisse.
La Suisse. Exactement. Ouais. C'est les Suisses. Le stade s'appelle Lothmar Hitzfeld Stadium, pointant à près de 2000 mètres dans les Alpes. C'est un terrain synthétique. Et en fait, pour jouer, les fans du club qui s'appelle FC Gspon, voilà, je l'ai dit comme c'était, Gspon, Gspon, le seul moyen pour aller jouer et regarder les matchs, c'est de prendre le télésiège. Voilà, sympathique, en crampon. Dans quel pays peut-on trouver une plage de sable rose ?
C'est connu.
L'Espagne ?
Non.
Bah oui,
moi il y a de la plage.
Grèce ?
Et c'est en Grèce. Alors, est-ce que vous pouvez même me dire l'île ?
Non, c'est une île. Je l'ai dit au pif.
C'est Crète. C'est l'île de Crète, ouais. C'est à l'ouest de Crète. Alors, la plage s'appelle la plage d'Elafonici. J'ai pris mon temps. Delafonici, voilà, un peu plus rapide. Donc, c'est une plage recouverte de sable rose. Alors, j'y suis allé. pour vous dire. Et en fait, j'ai pas vu beaucoup de sable rouge parce qu'il y avait beaucoup de serviettes. C'est très dense, en fait. C'est une petite plage. Oui, je peux un peu me la raconter. Oui, je suis allé là-bas. Je suis pas allé au stade à 2 mm. Je suis pas allé au petit resto, mais je suis allé sur la plage en Crète. Mais c'est joli, mais comme il y a plein de monde, en fait.
On profite pas vraiment.
Exactement.
Ouais. Tourisme
exactement.
De masse.
C'est... En fait, il y en a une plage rose en Italie. Il y a jamais personne.
Ah oui.
En Sardaigne. Ça s'appelle Bit de Rosa.
Voilà. Donc pas si insolite que ça, en fait. dans quel pays a-t-on un parc d'attractions situé sur un ancien site de centrale atomique et nucléaire ?
L'Ukraine.
Dans quel pays on a ça ? Non,
bah, Tchernobyl.
Non, mais.
Pourquoi pas ?
Non.
En Allemagne ?
C'est en Allemagne.
En
Allemagne, alors c'est en Rhénanie du Nord-Westphalie, donc en fait à l'ouest. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'appelle le Wonderland à Kalkar. Et le principe, c'est que dans la fin des années 80-90, la centrale était en train de se construire. Les gens ont manifesté pour qu'elle ne se fasse pas. Donc au bout d'un moment, ils ont cédé. Ils ont arrêté les travaux, sauf qu'il y avait une belle cheminée qui était déjà bien préparée.
Oui, j'ai lu là-dessus.
Et en 95, un Néerlandais, donc un des compatriotes de Ruben, a racheté le site pour le transformer en parc d'attractions. Alors, je vous rassure, la centrale n'a jamais été mise en service. Il n'y a pas d'inquiétude. Oui. C'était ma dernière question.
Ah non, on va encore.
Y a un manège à l'intérieur de la cheminée, ouais.
Ah d'accord.
Oui, j'ai vu des photos. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ça existe. merci à tous les amis. Suivez-nous sur l'émission, l'émission sur Deezer, même si personne regarde les podcasts sur Deezer, vous pouvez quand même le faire. iTunes, là, il y a du monde.
C'est insolite.
Ça aussi, c'est insolite. Ou SoundCloud, le Facebook Live, l'Europe est une fête, ou Radio Grande Contrôle. Merci Carla pour cette petite liste de mieux insolites positifs et insolites un peu moins positifs en Italie. Merci à pour cette cathédrale faite de briques et de brocs de Justo, c'est ça ? C'est Justo son prénom ?
Justo.
Oui, mais le J se dit. En français, on dit Justo et en italien, en espagnol, on dit Justo.
C'est ça. Comme Alejandra.
Comme Alejandra. Merci, Denis, pour les muses des cœurs brisés. Et pour ces lacs de toutes les couleurs, hein. Et les Mercedes en marbre qui vont bientôt venir entre les lacs. Merci à Radio Grande Contrôle d'accueillir l'émission. Merci Mafé pour le live Facebook. Merci Mathilde et Charles de m'avoir aidé à préparer l'émission. Et merci à Félix aux manettes. Alors n'oubliez pas, juste une petite promotion, le jeudi 9 mai est organisé ici à Grande Contrôle une double émission en public. Venez avec vos amis et des copains, on va rigoler. Et puis vous pouvez nous écouter à ce moment-là, vous pouvez nous voir et vous pouvez aussi nous embrasser carrément. On se dit au revoir dans toutes les langues. 1, 2, 3.
Adios.
Allez, salut.
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.